Bonjour, vous êtes sur, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et c'est l'heure de Zoom Écologie. Et comme nous sommes le troisième jeudi, c'est l'équipe du troisième jeudi qui s'y colle. Et comme nous sommes en septembre et que septembre est le mois de toutes les rentrées, nous n'allons pas parler de la rentrée des classes, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais nous allons parler de la rentrée littéraire. Et pour ça, nous recevons à côté de moi, j'ai Alice Gilloire.
C'est ça.
Gilloire, d'accord, qui est chargée de mission et qui nous parlera du Festival du Livre et de la Presse Écolo qui a lieu le mois prochain à la Bellevilloise. Nous recevrons également Marie-Edith Alouf, qui est éditrice et fondatrice de la maison d'édition Les Petits Matins.
C'est bien ça.
Vous nous direz pourquoi vous êtes invitée dans cette mission déjà. Écologique.
On va parler de la rentrée des livres écolo.
Très bien, et ben, ce sera avec plaisir. Nous recevrons, et ce sera la pause, disons, la respiration musicale de ce mois-ci, puisque vous savez, chers auditeurs fidèles, que nous recevrons dans chaque émission du troisième jeudi une invitée musicale. Nous recevrons Garance cette fois-ci, qui nous interprétera en live un morceau tout à l'heure en milieu d'émission. Et je suis, comme d'habitude, très charmement entouré, charmement ça se dit pas, mais très joliment entouré par Sophie et Laurence, qui sont
voilà,
mes co-animatrices.
Voilà, c'était la première remarque à connotation discutable
bonjour,
par les féministes
bonjour,
que nous sommes.
Pour le charmement,
nous sommes pour le charmement, Alexandre, ouais.
Voilà, et nous sommes aidés, merci encore, par Johan qui est à la technique aujourd'hui. Zoom Écologie, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30. À 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Voilà, et vous les avez l'habitude, maintenant nous démarrons toujours cette émission du troisième jeudi par la chronique de Laurence qui nous parle aujourd'hui de...
Alors, je vais parler des bonnes nouvelles pour cette chronique transnationale. On avait fini, on était parti en vacances sur des bonnes nouvelles. Alors j'ai décidé de continuer sur cette veine.
C'est une excellente résolution.
Première bonne nouvelle, c'est l'année internationale des forêts. Notre invité du Festival du Livre et de la Presse de l'Écologie nous en parlera certainement tout à l'heure. Donc, puisque c'est l'année internationale des forêts, on peut considérer que c'en est fini de la déforestation pour planter des agrocarburants, plus d'orang-outans à la rue, plus de paysans chassés de leurs terres. Youpi ! Deuxième bonne nouvelle, le Centre national d'études spatiales a constaté que le satellite qui surveille le pôle Nord fonctionne très bien. Moins bonne nouvelle, entre le début de l'hiver et la fin mars, ces observations ont montré une diminution de la couche d'ozone de 40%. Si même les satellites se mettent à faire des prédictions apocalyptiques, où va-t-on? Je vous le demande. Troisième bonne nouvelle, lorsque le G20 se réunira le 3 et 4 novembre prochain, les dirigeants des pays les plus riches vont enfin décider de mettre fin à la spéculation financière et décider aussi de redistribuer les richesses avec plus de justice. Parce que nos millions d'auditeurs iront sur le site taxrobindesbois.org et enverront des millions de cartes postales au président de la République pour lui demander de remettre la finance dans le bon sens. Et bien sûr, le président de la République va tenir ses promesses. Là, je sens l'incrédulité monter dans le studio. Donc, OK, bon, j'arrête les cracks et je donne une vraie information. L'astrophysicien Michel Mayor a annoncé la découverte de 50 nouvelles exoplanètes, dont 16 super terres rocheuses. L'une d'entre elles, située dans la constellation Véla, serait potentiellement habitable. Cette planète porte le doux nom de HD 85512b et elle abriterait peut-être de l'eau sous forme liquide. Donc la voilà, la vraie bonne nouvelle de la rentrée. On peut continuer à gaspiller, à polluer, à mettre à sac la Terre, c'est pas grave. On ira sur HD 85512b. Enfin, ceux qui auront les moyens de se payer le billet.
Merci Laurence, je ne te savais pas adepte de la méthode Coué à ce point-là. Donc on est là pour parler de la rentrée littéraire et de la presse et des livres écologiques en particulier. Donc nous avons choisi de recevoir aujourd'hui Marie-Edith Alouf. Vous êtes fondatrice et éditrice des éditions Les Petits Matins.
Absolument.
Alors, cette rentrée littéraire, qu'est-ce qu'elle a d'écologique particulièrement?
Eh bien, malheureusement, on est toujours obligé d'utiliser du papier pour la rentrée des livres, de préférence recyclés. En ce qui concerne les petits matins, c'est vrai que c'est une maison d'édition qui a toujours eu une identité verte.
C'est une maison assez récente qui date de 2005, j'ai vu.
Absolument, oui. Les premiers livres sont sortis en 2005.
Avec quelle particularité? Pourquoi créer une maison d'édition en 2005 et dans quel créneau êtes-vous rentré?
Par masochisme, vous voulez dire?
Voilà, c'est un peu ce qu'on se dit quand même.
Oui, alors...
Ou par passion, hein.
Parce que la passion aussi.
La passion mène au masochisme. Oui.
Voilà, parce que le masochisme seul, on a vite fait le tour. Non, l'idée était de créer une maison d'édition pour raconter l'époque. Raconter l'époque par les faits de société et aussi évidemment par une notion qui est de plus en plus importante et de plus en plus cruciale, qui est celle de l'environnement, puisque l'environnement, ce n'est pas une notion chimiquement pure, c'est évidemment une notion qui a des implications également sociales, économiques, etc.
Donc il y avait déjà ce choix au départ
d'accès. Il y avait ce choix dès le départ, absolument.
D'accord.
Oui. C'était une maison d'édition pluraliste, certes, mais avec en fait, que dès le départ, une envie vraiment d'explorer notre époque et de voir aussi comment on pourrait la faire changer, comment on pourrait la faire évoluer, quelles étaient les éventuelles pistes d'avenir qu'on pouvait tracer.
C'est vrai que, si je peux me permettre, plutôt qu'un grand soir, on préfère plein de petits matins avec tous les jours des choses qui changent.
Absolument, et c'était d'ailleurs, vous l'avez compris, un peu l'origine du nom. L'idée étant de jouer sur la notion effectivement de grand soir, avec ce que ça implique de révolutionnaire, d'envie de ruer dans les brancards, et aussi plus modestement de petits matins, promesses d'aube, de renouveau, de changement, de bonne humeur et de café chaud.
Alors est-ce que pendant ces 6 années donc, d'existence de votre maison d'édition, vous sentez une demande croissante de la littérature?
Oui.
Écolo,
On sent cette demande, et parce qu'on sent cette demande, on a effectivement intensifié notre production écologiste. Alors, on l'a intensifié aussi parce que forcément, à partir du moment où vous commencez à sortir des livres sur ce terrain, vous êtes de plus en plus sollicité, vous recevez de plus en plus de propositions intéressantes, et on va de plus en plus loin aussi dans les questions économiques, parce que on a évidemment conscience que l'économique et l'environnemental sont très, très étroitement liées. Les crises financières qui nous frappent actuellement nous forcent tout de même à réfléchir sur nos modèles de production fous, il faut bien le dire. Il n'y a pas que la finance qui est folle, mais il y a aussi le fait de consommer, sachant qu'en plus, cette consommation à outrance, cette production à outrance, elle n'est même plus productrice d'emplois, de richesses, etc. Enfin, on voit que la précarité augmente, etc. etc.
Alors donc là, par exemple, vous avez un livre qui sort qui s'appelle La Nouvelle Alternative. C'est typiquement ce genre de thème-là.
Alors oui, La Nouvelle Alternative, c'est un livre sur l'économie sociale et solidaire qui évidemment croise beaucoup de thèmes propres à l'environnement. Effectivement, on est sur ces terrains-là, c'est-à-dire quelles autres pistes on pourrait explorer. Et sur ce terrain, on a aussi un livre qui est sorti en 2010, mais qu'on va ressortir en janvier 2012 en édition augmentée, qui s'appelle Adieu à la croissance. C'est tout un programme. C'est un économiste qui s'appelle Jean Gadret et qui nous explique que la croissance n'est plus la solution à tous les maux, comme on l'a longtemps cru, mais au contraire le problème. Et on a pensé qu'en ces temps de bérésina financière, de morale dans les chaussettes des banques, etc., c'était une plutôt bonne idée de ressortir ce livre et de mettre en valeur un peu... des alternatives.
Ressortir parce que c'est un livre qui est déjà sorti.
Oui, c'est un livre qui est sorti en 2010, qui est épuisé parce que ça fait plaisir. Parfois, les livres ne restent pas dans les cartons, dans nos couloirs. Et ce livre est épuisé, donc nous le réimprimons avec une postface inédite de l'auteur.
Et en l'occurrence, un ouvrage que vous sortez à combien d'exemplaires ?
Alors, c'est un ouvrage qui s'est vendu à peu près 4000 exemplaires. On l'avait imprimé à 5000. Et donc, là, on refait un tirage à peu près équivalent, je pense.
D'accord.
Et parmi vos concurrents d'autres maisons d'édition, vous avez forcément aussi... ils sont aussi, j'imagine, investis dans ce créneau-là. Donc, la concurrence a augmenté, la demande a augmenté, mais la concurrence a augmenté. Donc, comment vous en sortez là-dedans ?
On est plutôt content d'avoir de la concurrence parce qu'en réalité, moi, j'ai remarqué que les livres, en général, ne se concurrencent pas, ils se complètent. C'est vrai qu'il y a des maisons telles que Les Liens qui Libèrent, par exemple, ou d'autres, ou La Découverte, enfin, ou d'autres, qui peuvent être souvent sur des thèmes proches des nôtres. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça qui ont au même point que nous, une identité si forte sur le terrain économique ou environnemental. Je pense qu'on, nous, en tout cas, on est vraiment en train de développer cet aspect-là, et je pense qu'on est de plus en plus reconnus auprès des libraires et des lecteurs comme crédibles sur ce terrain.
Moi, je voudrais parler d'un livre aussi qui m'a beaucoup plu, qui est « La philosophie de l'écologie politique » par Eva Sass, et qui permet aussi, pour celles et ceux qui connaissent moins les fondamentaux philosophiques, on va dire un peu théoriques, qui fondent toutes les théories de l'écologie politique, de se familiariser avec ces thèmes-là. Et c'est un livre qui est sorti cette année, je crois.
Oui, c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois, absolument, et qui remonte aux origines de l'écologie politique, en partant de mai 68 à peu près, qui explique que l'écologie n'est pas née il y a quelques années, mais que ça repose déjà sur près d'un demi-siècle d'expérience, de recherche philosophique, sociologique, qui s'appuie vraiment sur une pensée.
Le nom de ce livre, c'est
Philosophie de l'écologie politique.
Voilà. D'accord. Et comme on parlait de mai 68, moi, je me souviens d'un livre extraordinaire, d'un livre d'écologie qui me plaisait beaucoup quand j'étais enfant. C'était le Catalogue des ressources. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez le Catalogue des ressources, c'était 3 tomes. Donc, le premier tome se consacrait aux techniques de jardinage, comment fabriquer des toilettes sèches. Voilà, chaque tome, en fait, amenait des informations sur comment se débrouiller si on sortait du système. Et c'est très amusant à regarder aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit du chemin parcouru qui, malheureusement, aurait pu aller certainement beaucoup plus vite dans l'évolution de la société si on s'était penché plus nombreux sur ce catalogue des ressources, parce qu'on voit les panneaux solaires, la récupération de l'eau, des retours aussi à enfin, l'existence déjà de toutes ces questions écolo que Reiser aussi traitait à l'époque très fortement. C'est intéressant parfois aussi, moi je suis bien loin de défendre le retour, hein, l'idée que l'écologie c'est un retour vers le passé, mais regardez un petit peu ce qui était fait effectivement par les précurseurs dans les années 70, c'est assez rigolo et c'est parfois un peu triste de se dire qu'on a perdu beaucoup de temps aussi dans l'évolution de la société.
Alors justement, qu'est-ce que vous nous annoncez comme sortie prochaine dans des livres
Je vous annonce un petit bréviaire écolo pour réviser votre catéchisme. En fait, les deux auteurs, qui s'appellent Wilfried Sejo et Erwan Lecoeur, sont des écolos de longue date et ils se sont amusés à lister les 10 principales remarques ou questions récurrentes qui tombent à chaque fois qu'ils sont dans un dîner et qu'ils se présentent comme écolos. Alors, ils ont fait une espèce de top 10, des clichés en réalité, sur l'écologie, et ils s'amusent à y répondre. Alors, vous avez par exemple
le bio, c'est plus cher.
Voilà, l'écologie, c'est un luxe de riches, ou alors, oui, mais l'écologie, ça devrait n'être ni de droite ni de gauche, ou encore, mais l'écologie, ça ne devrait pas être de la politique. Il y a aussi « vous serez incapable de gérer, vous êtes des utopistes, vous n'êtes même pas d'accord entre vous ». Voilà, donc ils ont fait une espèce de catalogue comme ça. Et dans la 10e question, ils se lâchent, c'est « de toute façon, tout ça, c'est de la connerie ». Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans un dîner qui finit par dire « mais de toute façon, tout ce que vous voulez, c'est faire peur aux gens pour gagner les élections. Le réchauffement climatique, c'est même pas vrai, Claude Allègre l'a dit, et il est quand même philosophe, etc. » Donc voilà, ils ont listé les 10 questions plus ou moins sérieuses, plus ou moins perverses, plus ou moins moqueuses. Et ils y répondent avec beaucoup de sérieux, en réalité.
D'accord. Voilà,
pour nous expliquer que si l'écologie a plus à voir avec la gauche qu'avec la droite, c'est peut-être qu'il y a des raisons, etc., etc.
D'accord.
Et que non, l'écologie n'est pas un luxe de riches parce que, par exemple, quelque chose qu'on paye... on croit qu'on paye pas cher les produits alimentaires que l'on achète en supermarché. En réalité, on les paye plusieurs fois via, par exemple, les subventions européennes à l'agriculture intensive, etc.
Bien sûr, d'accord. Donc ça s'appelle Petit bréviaire
écolo.
D'accord.
Erwan Lecoeur et Wilfried Sejo.
D'accord. Et ça sort ?
Et ça sort le 6 octobre.
Le 6 octobre. Donc on est vraiment dans l'actualité. Oui. Très bien.
Et si j'ai bien compris, on pourra le retrouver au Festival du Livre et de la Presse de l'écologie ?
Alors oui, tout à fait, puisque vous serez les petits matins présents sur le forum avec plusieurs autres éditeurs écolos.
Qui a lieu à quelle date ?
Alors, c'est le 15 et le 16 octobre.
Alors, nous écoutons Alice Gillois, voilà, qui est donc chargée de mission et qui va vous allez nous parler de ce festival, justement. qui est donc le Festival du Livre et de la Presse Écologique. Ça fait combien de temps que ça existe, ce festival ?
Alors là, c'est la 9e édition. Donc, on est maintenant à la Bellevilloise. On a changé de lieu depuis l'année dernière. Donc, la 9e édition avec des nouveautés, des choses qu'on va retrouver... qui seront les mêmes que l'an dernier. Mais on essaye tous les ans de s'adapter aux sorties littéraires. Et puis, on remarque aussi qu'on reçoit des différents visiteurs tous les ans qui ont toujours des remarques pertinentes et intéressantes pour construire un festival.
Donc, à la sortie du festival, il y a une petite urne dans laquelle on peut glisser vos idées et vos remarques sur le festival.
Et on les lit attentivement et on essaye tous les ans de s'adapter.
Donc, ça s'appelle festival, mais c'est quoi ? C'est plus un salon du livre, finalement ?
Alors, ça s'appelle festival, mais on y retrouve beaucoup de choses. Donc, il y a un forum de la presse et un forum des associations, donc où les festivaliers retrouvent des titres de presse écolo, et puis également les associations... nationale, mais aussi locale, de protection de l'environnement et de la nature. Donc, c'est des forums qui sont là sur les deux jours. Donc, on peut vraiment les retrouver tout au long des deux journées.
Donc, c'est des stands, en fait, concrètement ?
Voilà, des stands.
D'accord.
Et puis, il y a également des projections de films et des expositions de photos qui sont permanentes pour ce qui est des photos. Et les films seront diffusés à plusieurs reprises également. Et il y a un espace des métiers de l'environnement qui permet aux gens qui viennent et qui voudraient travailler, mais qui ne savent pas vraiment de quelle manière on peut travailler dans le domaine de l'environnement ou de la protection de la nature. Donc on invite différentes associations et différents espaces de formation pour voir comment on peut travailler au sein de la protection de l'environnement ou de la nature.
D'accord.
Et on a donc effectivement, après la grosse partie du festival, des conférences et des débats avec des invités.
D'accord. Et vous avez aussi un festival jeune public au milieu de ça ?
Alors le festival jeune public également sur les deux jours, avec des éditeurs jeunesse qui sont là, des animations pour à peu près tous les âges. On a essayé de faire plaisir à tous les enfants. Et des animations sur le thème de la forêt, essentiellement. Qui est...
D'accord, parce que c'est le thème de l'année, en fait,
voilà,
c'est ça ?
L'appel des forêts. Ça
l'appel des forêts, d'accord. Voilà.
Et donc, le jeune public est invité à venir nombreux, parce que donc on propose ces différentes animations, et également un festival littérature, qui est le festival le Prix de la Petite Salamandre, avec un jeune public qui, tout au long de l'année, a travaillé dur, a beaucoup lu et va remettre son prix littéraire le dimanche après-midi.
Donc c'est une sélection de jeunes lecteurs qui sont venus...
Voilà, on a fait une sélection au sein de l'équipe du festival, une sélection de plusieurs ouvrages. Et ensuite, au Centre d'animation des Abbesses, ils ont été lus, décortiqués, critiqués tout au long de l'année et en octobre est désigné le grand vainqueur.
D'accord. Alors, comment est venue l'idée de créer un festival comme celui-là il y a une dizaine d'années ?
Alors, l'idée est venue... en fait, l'envie était de faire un festival qui réunisse à la fois des militants écologistes et également un public intéressé par les événements littéraires, culturels. Et ce festival était là pour avoir ces deux éléments-là. Donc une promotion du livre et de la littérature, et également l'envie de...
Qui a créé ce festival ?
Alors c'est Jacques Thomas qui est président de l'association encore aujourd'hui.
D'accord.
Qui est à l'origine de la création du festival.
Et il fait quoi dans la vie, ce monsieur ?
Jacques Thomas, dans la vie, il est bibliothécaire.
Il est bibliothécaire, ouais. D'accord. C'est quelqu'un qui vient du livre, donc qui est déjà passionné par le livre et qui avait...
qui a décidé de monter son association pour justement retrouver ce qui n'existait pas forcément il y a 10 ans, quasi maintenant. C'est vrai que le festival a grandi. C'était une demi-journée au départ. Et puis finalement, de fil en aiguille, l'association... a grossi parce que ça répond, comme on le disait tout à l'heure, aussi à une demande.
Oui, d'ailleurs, vous aussi, vous avez observé une demande croissante pendant les dernières années.
Voilà,
on parle
départ,
de plus en plus de l'écologie, c'est pas nouveau. Hein,
voilà, au départ, c'était peut-être plus des militants, et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de façon globale, qui se posent des questions, qui ont envie de voir ce qui se fait au niveau littéraire. Il y a beaucoup plus de choix.
Les gens justement qui s'intéressent de plus en plus à l'écologie, peut-être que vous avez observé ça, je vous pose la question à toutes les deux, est-ce qu'ils s'intéressent plus à leur acte au quotidien, c'est-à-dire les gestes à faire, ou est-ce qu'ils s'intéressent plus, c'est plus une philosophie globale sur, ils ont une pensée globale sur l'avenir du monde, le réchauffement climatique ou des choses comme ça
Alors je pense qu'il y a deux choses, il y a effectivement un désir d'acte au quotidien,
parce qu'on est de plus en plus informés, donc on peut de moins en moins faire semblant que c'est pas un problème de jeter ses ordures n'importe comment, etc. Il y a de plus en plus d'informations, donc de plus en plus de nécessité d'agir, sauf à avoir une très mauvaise image de soi-même. Et par ailleurs, il y a quand même un constat que des tas de valeurs qu'on croyait immuables, stables, etc., sont quand même en train de s'effriter, si ce n'est de s'effondrer. Et je pense que beaucoup de gens ont envie d'alternatives, ont envie qu'on leur tienne un discours autre, et ont envie qu'on leur donne de l'espoir, parce que c'est vrai que il y a quand même un climat social et économique assez inquiétant, assez morose. Il y a une envie de trouver des solutions, de trouver des sorties, et il est évident que le travail des militants, etc., a fait que on a été de plus en plus informés du fait que le réchauffement climatique était bien réel, que c'était pas un mythe, et que finalement ces questions-là étaient vraiment l'enjeu du 21e siècle, que si on veut pas en quelque sorte suicider la planète, il faut vraiment faire quelque chose. Donc je crois que oui, il y a une véritable prise de conscience, et du coup un besoin de bagages un peu théoriques pour comprendre où on est et pour comprendre où sont les issues de secours. Oui.
D'accord.
Et dans la littérature de fiction, est-ce qu'émerge effectivement de la littérature inspirée par l'écologie ? Parce que jusqu'ici, c'était la science-fiction, beaucoup, hein, qui proposait effectivement d'autres modèles de vie, qui projetaient d'autres visions de la vie. Alors, il y a eu un livre très critique des écologistes, dont j'ai oublié le titre là, qui faisait une critique un petit peu du modèle, enfin de, oui. de cette... De,
j'ai lu, j'en ai entendu parler aussi.
Oui, des écolos qui font très attention à tout ce qu'ils font. Mais est-ce qu'il y a Brut d'Alibor Friou qui vient de sortir, qui s'intéresse au pétrole comme vraiment héros presque d'un roman. Est-ce qu'on voit émerger une littérature de fiction portée vraiment par ces thématiques-là ?
Nous, on s'y est un petit peu essayé au petit matin. On a sorti notamment un polar écolo qui s'appelait Requiem pour un thon et qui se passait dans le milieu de la surpêche, dans le milieu de la pêche illégale au thon. Alors voilà, c'était une petite tentative que nous faisions vers le roman. Alors, je saurais pas dire s'il y a réellement une littérature qui émerge, mais l'exemple que vous donnez avec le livre sur le pétrole est un très bon exemple. Et je pense qu'en effet, il y a des enjeux dramatiques réels, en fait, dans ces questions. Et ça devrait solliciter l'imagination des romanciers, c'est certain.
Ça me fait penser, d'ailleurs, on parlait de polar écolo, mais j'avais lu il y a quelques années le premier polar écolo, enfin, c'était intitulé comme ça, c'était un livre de Jean-Christophe Ruffin, mm-hmm. roman policier qui s'appelait, alors je sais plus d'où on Ça m'avait un peu déçu d'ailleurs, parce que j'adore Jean-Christophe Ruffin, je trouve que c'était pas son meilleur. Mais voilà. Vous, c'est quoi les premiers livres ?
C'était assez radical, hein. C'était une écologie assez radicale.
Oui, c'était, voilà.
C'était dans d'autres champs.
C'est vrai qu'il y a tellement de drames aujourd'hui, des drames humains et des drames de la biodiversité qui se passent, qu'on voit bien qu'il y a là un réservoir malheureusement énorme pour tout un tas d'intrigues très fortes.
C'est quoi, si vous vous souvenez, hein, les premiers, je détesterais qu'on me pose la même question, vous pouvez me le dire, mais les premiers livres écolos qui vous ont marqué un peu ?
Alors, y compris dans l'enfance.
Oui.
Alors, c'est marrant ce que vous parliez
les petits matins.
Vous parliez des livres, des ressources. Et c'est marrant ce qu'au moment où vous en parliez, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à des livres qu'on m'offrait quand j'étais enfant, qui étaient le manuel des castors juniors. Et c'était bourré. Alors, parfois, c'était bourré d'astuces, comment faire du feu, des choses comme ça. Donc, c'était.
Je l'ai eu aussi, j'adorais ça.
J'adorais ça.
Avec le manuel de Géotrouve-tout.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, je qualifierais pas ça de livre écolo, mais quand même, il y avait un côté. Il y avait un côté se débrouiller dans un environnement pas forcément
facile. Un côté très scout aussi.
Voilà, sinon, les premiers livres qui auraient nourri mes réflexions écolo, là, effectivement, vont poser une petite colle si d'ici 21h30, d'accord. Je retrouve.
Alice, vous avez une idée là-dessus ?
On a eu le temps d'y réfléchir un petit peu tout à l'heure.
Ah oui.
Moi, je pense que c'est vraiment la bande dessinée qui peut être importante pour justement sensibiliser les plus jeunes. Parce qu'effectivement, il y a toujours les images qui sont assez attirantes. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir, qu'on peut vraiment rentrer dans cette thématique-là. Avec notamment, on parlait de Manu Larcenet, où là, c'est l'exemple parfait. Où,
le retour à la Terre,
voilà,
les trois tomes.
Où à la fois les dessins sont très beaux et je pense peuvent être appréciés par des enfants vraiment sans lire l'histoire. Et quand on est adulte et qu'on lit l'histoire, c'est assez intéressant et prenant. Et c'est typique le genre d'ouvrage, je pense, qui peut permettre d'avoir cette double entrée jeunesse.
Mais vous, vous vous souvenez d'ouvrages qui vous ont marqué?
Alors, Manu Lersonnet, non, parce que j'étais pas enfant quand j'ai commencé à lire. J'ai pas retrouvé depuis tout à l'heure.
D'accord, bon, c'est vraiment les questions qu'il fallait pas poser. Quoi.
Oui, Laurence, tout à l'heure, oui, Sophie va nous faire une sélection des BD, justement, écolo.
Voilà, ça on va faire une petite sélection des BD, on fera une, on continuera.
Si, moi, j'ai un souvenir. Ah. Je sais pas, c'était les Mahusiers. Alors, les Mahusiers, c'était une famille, ils avaient 10 enfants et ils avaient une espèce d'autocar et ils faisaient le tour du monde avec leurs 10 gamins et ils écrivaient des livres après, ils faisaient des conférences, etc. C'était la famille Mahusiers. Alors, c'était un peu, c'était dans les années 60-70, c'était un petit peu néocolonialiste, etc. Parce qu'il faut quand même se replonger dans l'époque.
C'était une bande dessinée ?
Non, c'était des livres. Hein, c'était des livres et c'était effectivement le père et la mère de famille qui écrivaient ces livres, qui racontaient leurs voyages. Il y avait quand même déjà un côté. Écolo, parce qu'ils partaient dans des pays pauvres, il fallait qu'ils fassent attention à l'eau, etc. Et puis ils allaient à la rencontre des autres, etc.
Il y avait la bibliothèque verte quand même, c'était déjà des
familles. Il y a une autre chose à laquelle je pensais, il y avait un dessin animé qui s'appelait Les Watou Watou.
Oui, ah, effectivement.
Et c'était super écolo dans l'esprit, peut-être qu'on n'avait pas conscience à l'époque, mais.
C'est vrai.
C'est vrai, voilà. Il faudra le revoir. Bon, on va faire une petite respiration musicale comme on fait chaque troisième jeudi vers le milieu d'émission. Et aujourd'hui, nous recevrons Garance. Et on va rapprocher ce micro-là. On va mettre deux micros dans la direction de Garance. Bonjour, Garance.
Bonjour.
Alors, Garance est une jeune chanteuse française, mais déjà expérimentée. On s'est croisés, pour la petite histoire, au Festival de la chanson de café à Pornic au mois de mars dernier. Je ne sais jamais si c'est mars ou février.
C'est ça, c'est mars.
Les auditeurs ne s'en préoccupent pas trop. Garance... tu joues depuis plusieurs années déjà la chanson française ?
Oui, alors ça fait 5 ans que je chante sur scène.
D'accord.
Et voilà, j'écris et je compose et je chante seule jusque-là avec ma guitare. Et je suis en train de monter un groupe.
D'accord.
Donc avec une guitare électrique, une basse, une batterie. Voilà, avec 3 nouveaux musiciens et ça sera un peu plus rock.
D'accord, alors on voit beaucoup Garance, Garance joue beaucoup quand même globalement dans les cafés, les petits festivals parisiens, en province aussi également, donc beaucoup de dates quand même.
Oui, voilà, effectivement depuis 2 ans, il y a pas mal de concerts. Là, le prochain concert, c'est vendredi prochain, le 23,
d'accord,
à Paris.
Donc c'est vendredi de la semaine prochaine.
Voilà. Donc vendredi 23 à Paris sur la péniche Elle à la Main.
D'accord, qui est en face de en bas de la bibliothèque François Mitterrand.
Tout à fait. Et ce sera un coplateau avec Charlie Tango. Et voilà, après il y a des festivals en province et quelques petites dates en dehors de Paris aussi.
D'accord. Alors tu vas nous jouer quoi en live aujourd'hui ?
Alors,
rien que pour nous.
Je vais chanter une chanson qui s'appelle Gare du Nord.
D'accord, Gare du Nord, elle parle de quoi cette chanson ?
Elle parle d'une dame qui attend son homme sur le quai de la gare.
D'accord. Et elle s'est trompée de gare, c'est ça, non ?
Voilà, elle s'est trompée de gare. Ça prouve que l'animateur vient à mes concerts.
Voilà, donc on écoute Garance. Je vous donne quand même tout de suite l'adresse de son site internet, au cas où j'oublie tout à l'heure, c'est myspace.com/garancemusique. Voilà, enfin, si vous tapez Garance et musique dans Google, vous tombez sur son site. Mais si vous tapez Garance tout seul, il y a toujours un... Oui, tu veux...
Non, c'est juste qu'elle aille bien devant le micro.
D'accord. Voilà. Alors, je m'avance un peu. Okay.
On installe les micros et on écoute Gare du Nord. Garance, c'est parti. Quand tu veux.
Ok.
J'avais mis pour te plaire du soleil sur mes joues. J'ai pas osé l'éclair dans les yeux qui rend fou. J'avais mis sur la table le plus doux des vins rouges. J'avais juré cracher, maintenant plus rien ne bouge. Et le tourbillon passe, et le tourbillon fou. Il emporte ta carcasse, hélas, il emporte tout. Et j'aurais l'air de quoi sur mes talons aiguilles, je ferai un tabac, on dira elle est vrille, la pauvre fille. Gare du Nord, je t'attends du soleil. bataille les mollets en moto. Et je frappe le sol, je déchire les dentelles, je tangue la commode, je brise la vaisselle. Et je retire mes bas dans mon tourbillon fou. Le train n'emporte pas mes chapelets andalous. Et j'aurai l'air de quoi? D'une pauvresse à la ville. Je ferai un tabac, des trous dans mes résilles. Pauvre fille, gare du Nord, je t'attends. Je retourne en Espagne. Je finis la bouteille, je médis, je m'agagne. Et je danse avec toi les polas de minuit. Sur le bout de mes doigts, ton absence confondue dans mon tourbillon fan, les larmes des amants, les jupons de ces dames, les joujoux des enfants. Car du Nord, je me traîne, mais tu n'es pas venu. Je ravale le soleil dans ses rayons perdus. J'avais mis pour te plaire du vent dans mes cheveux. Un foulard militaire pour battre tes aveux. J'avais ôté ma laine, mais j'ai froid, gare du Nord. Mon amant madrilène, mon marin, mon trésor. Gare du Nord, je t'attends, du vent dans les cheveux. J'abalais par avant, mon beau, mon amour. J'ai couru la campagne pour attraper le train. Les oiseaux m'accompagnent à Paris ce matin.
Merci Garance.
Merci beaucoup.
Voilà, donc c'était un petit aperçu des chansons de Garance qui sont toujours comme ça, assez poétiques. C'est une vision, disons, non naïve d'histoire d'amour, globalement, un peu, Garance, c'est ça?
Oui, voilà, on
rigole souvent dans tes concerts, on rigole beaucoup.
Non, justement, donc, tu dis, donc voilà, les chansons de Garance sont un peu comme ça, poétiques, mais il y a aussi des chansons drôles.
Oui, c'est ça, mais on peut rire avec la poésie en même temps.
Dans
non, on ne peut pas que pleurer, on rigole beaucoup. Et voilà, et c'est très varié. Voilà. Donc, je vous incite à aller la voir vendredi 23 sur la péniche à la Maine et de vous rendre sur son myspace.com/garancemusique. Voilà, on revient à l'œuvre écrite.
Alors, j'ai retrouvé le bouquin de Ruffin.
Ah.
C'était Le Parfum d'Adam.
Le Parfum d'Adam, d'accord.
Effectivement, c'était plutôt un commando d'extrémistes écolos qui ne donnait pas forcément une très belle image.
Voilà.
Alors j'ai une petite liste de BD, peut-être que c'est le...
Alors c'est le moment de parler de bande dessinée, très bonne
idée. On a commencé à en parler tout à l'heure. Laurence parlait du Réser, qui s'appelle L'écologie, qui a été écrit dans les années 70. Je pense que ça peut faire partie des références, il y a quand même pas mal de choses vraies encore.
Réser, c'était un des premiers à avoir des panneaux solaires sur sa maison. Hein. C'est très intéressant, il raconte ça, comment il installait ses panneaux solaires et tout.
Mm. Donc Réser, après on a effectivement les Larsenet dont on parlait tout à l'heure, le Retour à la Terre, tome 1, 2 et 3. Voilà. Pour moi, ça fait partie des belles choses à lire en BD sur le thème de l'écologie. Dans la même veine, il y a Étienne Davodeau qui avait fait Rural, qui n'est pas tout jeune, qui date de 2001 et qui parle de l'agriculture biologique. Donc pour moi, c'est vraiment les... En plus, il y a un côté très humain, très sensible... que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez.
Et il avait eu un succès fou d'ailleurs, ce livre.
C'est une bande dessinée ?
C'est une bande dessinée.
C'est une bande dessinée, d'accord. Okay. Mais il y a une histoire quand même ou ça...
Ah oui, il y a une histoire, on parle de l'histoire des gens, c'est très storytelling finalement. Voilà, c'est un gars d'Avodo qui a fait pas mal de choses, notamment sur son territoire, il vient des Mauges, qui emmènent dans le Maine-et-Loire, territoire très catholique, mais également très ouvrier, avec beaucoup de militance, etc. Et il a fait tout un ouvrage là-dessus. Il est revenu aussi avec une BD qui s'appelait « Un homme est mort » sur des manifestations qui avaient eu lieu dans les années 50 en Bretagne. Enfin, on est vraiment dans l'humain. Et si on voit l'écologie aussi comme l'économie un petit peu différente, sociale et solidaire, on est en plein dedans avec Davodo. Donc voilà, je trouve que ça mérite Ça mérite d'être connu. Il y a une autre chose que j'ai bien aimée qui s'appelait Terra Nostra Organisation. C'est encore une BD, c'est plutôt le polar écologique avec une question qui n'est pas inintéressante. C'est tout ce qui concerne les ressources en eau potable dans la bande de Gaza. Quand on sait que l'eau va être un des problèmes les plus importants des prochaines décennies.
Voilà. Les guerres des ressources, oui.
Exactement, et surtout dans ces territoires-là. Voilà. Un autre très joli, très social aussi, qui s'appelle « Où vont les hommes ?» de Litvin, et c'est dans la collection « Contre-pied ». Voilà, et puis en fait, il y en a plein d'autres que j'ai aimés. Cette semaine, peut-être, on sera plus sensible à un nouvel ouvrage d'un collectif qui s'appelle « Le Café Salé », qui a sorti « Magnitude 9 ». C'est tout nouveau, c'est un hommage d'un collectif d'artistes au peuple japonais. Donc, suite à la catastrophe, c'est pas mal de dessins, pas mal de dessins différents. C'est un collectif qui avait fait un ouvrage qui est sorti en février, qui s'appelait « Brume », et qui a été fait grâce à des fonds de la Ligue de protection des oiseaux. Donc voilà, il faut m'arrêter parce que j'en ai vu plein d'autres.
C'est intéressant, c'est très intéressant.
Il y a un autre ouvrage qui s'appelait « Tchernobyl, mon amour » de Chantal Montellier. Très très bien. D'accord. Je suis restée, c'est vrai que la semaine a été, énergétiquement chargée. Donc,
mais tu sais, le problème, c'est que je crois qu'on n'en a pas que pour la semaine. En fait. Surtout avec le nucléaire, le problème, c'est qu'on s'en prend quand même
pour 24
plus
millions,
que des années. Ouais, c'est ça.
Alors du coup, après, j'ai dérivé. J'ai lu « Le sarcophage » d'Enki Bilal. Là, on est à Tchernobyl. Donc on est complètement en plein dedans. Bilal avait aussi fait le vaisseau de pierre. C'était un village traditionnel de marins qui était menacé par des promoteurs qui étaient assoiffés d'argent. Assez écologique comme thème.
C'est vrai
même.
Que Bilal, il a souvent des atmosphères de, enfin, post-apocalypse. Quoi.
Et qui, du coup, sont intéressants. En même temps, c'est un peu ce qu'on disait de l'ouvrage de Ruffin, c'est qu'il a plutôt tendance à avoir la politique un peu du pire. Donc à des moments, ça peut avoir un côté un peu agaçant. Et finalement, il n'y a que les personnes qui sont sensibles à l'écologie qui vont le lire. Et je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bah, sur le livre de Ruffin en particulier, oui, je ne sais pas. Là, c'était vraiment un polar.
Sur Bilal aussi, hein, à des moments, ces mondes sont très...
C'est parfois un peu cauchemardesque.
Voilà,
aussi,
tout à fait.
Ouais.
On est vraiment sur la fin du monde, hein, effectivement. Mmh. Donc voilà. Puis après, il y a des choses un peu plus rigolos, comme Autobio. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Cyril Pedrosa.
À chaque fois qu'elle annonce un titre, elle nous regarde avec des grands yeux, comme si on connaissait tous, mais nous, on n'a pas passé toute notre semaine.
Je suis devenue une spécialiste.
Voilà, on n'a pas passé toute notre semaine chez le libraire, on aurait sans doute dû.
Hein, j'ai fait l'ermite pendant toute la semaine.
Je pense que tu as passé une bonne semaine, Sophie.
Je me suis éclatée, mais alors, Autobio, c'est celui que j'ai le mieux aimé en termes de légèreté. C'est un écolo militant qui montre que ce n'est pas une sinécure d'être un écolo en pleine ville. Enfin, voilà. Et. Je
d'accord.
Vais poursuivre mes
bande lectures, dessinée alors. Aussi, c'est ça.
Bande dessinée.
D'accord.
Bah, en fait, il me faut des images.
D'accord. Bah, on pourra continuer cette rubrique tous les mois, c'est intéressant.
Mais avec grand plaisir.
Voilà, moi j'ai contacté, j'ai essayé de rassembler des sorties du côté de la littérature jeunesse, mais j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de succès avec les maisons d'édition puisque j'ai reçu un seul ouvrage en fait. Donc je peux vous en parler. Il est devant moi. Ça s'appelle L'Écolodico. C'est sorti chez Atier Jeunesse et c'est donc un dictionnaire, comme son nom l'indique, le dictionnaire de Julia. Alors ça doit se prononcer Gulia parce que c'est un partenariat avec la chaîne de télévision Gulli. À moins qu'on dise Julie, non, on dit Gulli.
Bon.
Donc voilà, c'est 80 définitions adaptées aux enfants avec beaucoup d'illustrations sur les éco-gestes, etc. Puis une demoiselle qui s'appelle donc Gulia qui nous présente ça. Donc on a la définition de catastrophe nucléaire, de clonage, de commerce équitable, de nappe phréatique, etc. Bon, voilà, c'est un ouvrage plutôt assez bien fait, assez vivant. Bon, il y a des illustrations de Gulia à chaque page. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais bon, il y a un plateau jeu à la fin, là. Donc, on peut jouer à la fin avec un dé à découper en papier. Donc, voilà, c'est plutôt... C'est un bel ouvrage. Et on peut défendre cet ouvrage. C'est écrit par Bruno Goldman, qui est un passionné de voyage et qui a été médiateur scientifique à la Cité des sciences et de l'industrie, qui est enseignant. Voilà, bienvenue au club. Et Marc Germanang, alors j'espère que je ne décroche pas trop son nom de famille, qui enseigne les questions européennes à Sciences Po. Donc voilà, c'est plutôt bien fait, ça sort chez Atier Jeunesse. C'est sorti d'ailleurs chez Atier Jeunesse il y a déjà quelques mois.
En littérature jeunesse, j'imagine qu'il y a beaucoup d'ouvrages éducatifs. Est-ce qu'il y a aussi des contes, enfin, des choses qui font un peu plus rêver ?
Alors, il y a beaucoup de choses de plus en plus au niveau de la littérature jeunesse. Effectivement, on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve maintenant chez les adultes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses très illustrées pour les plus jeunes, vraiment, ou même sans texte, mais avec juste des images sur la nature. Et après, on trouve beaucoup d'ouvrages pédagogiques, justement, qui sont assez bien faits, notamment voilà, pour apprendre les gestes sans en faire non plus quelque chose de complètement contraignant, parce qu'on a bien compris que ça ne marchait pas et que ça servait à rien de culpabiliser les enfants dès leur plus jeune âge. Mais on retrouve beaucoup de choses comme ça, pédagogiques et éducatives. Et après, il y a tout ce qui est ouvrage jeunesse plus classique, on va dire, mais qui sont quand même très axés sur la nature avec des histoires pour les enfants.
Et on voit ça plutôt dans les grandes maisons d'édition ou dans des maisons d'édition du type Les Petits Matins ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence après sur les maisons d'édition un peu plus engagées
Alors, il y en a, on trouve des ouvrages jeunesse dans toutes les maisons d'édition. Je ne saurais pas dire si on les trouve plus...
Jeunesse et d'une manière générale, hein,
oui, peut-être. Oui, jeunesse, oui, on trouve vraiment toutes les maisons d'édition s'y sont mises ou ont continué si elles avaient commencé.
Les Petits Matins, il n'y a pas de...
Non, on n'a pas encore été
l'exception.
Sur ce terrain.
Ah, mais
il faut
y aller.
Pourquoi d'ailleurs ?
Il faudrait peut-être faire Les Tout Petits Matins, du coup.
Alors, sans raison précise, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop s'éparpiller. C'est vrai que la jeunesse, c'est quand même autre chose. Souvent, ça implique de la couleur, c'est quand même d'autres budgets, ça implique des illustrations. Nous, pour l'instant, on est quand même sur le livre classique, quoi, le livre en noir, etc. Mais qui sait, peut-être un jour, donc, Les Petits Matins feront des petits. Donc.
Il y a L'Arbre au papier qui fabrique du papier recyclé sous plein de formes, qui fait des albums de coloriage qui sont très rigolos, dans lesquels on peut découper des sortes de grattoirs, en fait. Hein. Moi, je me souviens, petite, on grattait les pièces de monnaie comme ça. Et là, en fait, on gratte...
Non, on grattait avec la pièce de monnaie. Hein. Tu grattais la pièce de
non,
monnaie.
Non, tu mettais la... Alors, tu mettais une feuille de papier au-dessus de la pièce de monnaie et tu grattais avec ton crayon et ça faisait ressortir le relief de la pièce
d'accord,
de monnaie.
Oui, je m'en
donc,
souviens,
selon ce principe-là, il y a des surfaces rugueuses qui permettent sous les animaux à colorier d'avoir un motif écaille, par exemple, ou un motif fourrure, etc. Et en fait, ça explique... Donc, c'est par thème. Hein, il y a la montagne, par exemple. Et donc, on peut colorier une marmotte et en même temps apprendre où vivent les marmottes, quelles sont...
Oui.
Là, je m'aperçois en parlant de cet album de coloriage que ça m'anime complètement.
Alors, L'Arbre au papier sera présent sur notre festival pour la première année cette année, avec notamment ce type de papier-là et plein d'autres choses, vu qu'ils ont une production assez variée.
Alors du coup, dans le prolongement, moi aussi, j'ai une question justement en termes d'éco-conception, enfin, sur la fabrication même de l'ouvrage. Est-ce qu'au festival, on voit beaucoup de maisons qui réfléchissent à ça ? Et est-ce que c'est compliqué de réfléchir aussi à l'éco-conception au-delà des thèmes ?
Alors oui, c'est un peu compliqué parce que on se dit, bon, papier recyclé. Très bien. Après, vous avez plusieurs écoles sur le papier recyclé. Vous avez ceux qui trouvent qu'effectivement, c'est bien, qu'aujourd'hui, les techniques de recyclage de papier sont efficaces, etc. Et d'autres qui vous disent que non, qu'en réalité, les méthodes permettant de blanchir le papier sont elles-mêmes polluantes, etc. Vous avez plusieurs écoles. Alors, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Les imprimeurs, maintenant, vous proposent des labels, vous savez, pour dire que leur papier vient de forêts durables, etc. C'est pas évident que ces labels soient forcément très fiables parce qu'effectivement vous avez un beau discours qui l'accompagne, mais est-ce que c'est pas un petit peu parfois de la pub ? Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça en fait de prendre la bonne décision en fait pour éco-concevoir les livres.
Voilà. D'accord, oui, cette question des labels. Ouais. Tu t'y connais un peu, Laurence, dans la question des labels de papier ? Non.
Bon. Il y Il y a le fameux label PFCE, il y a un autre...
PEFC.
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 Je me suis dit, je ne vais pas confondre avec la FCPE, mais j'ai confondu avec autre
chose. C'est la rentrée. Hein.
C'est l'actualité,
c'est la rentrée,
aussi.
Voilà. J'ai confondu avec autre chose. Voilà.
Littéraire donc, ou pas.
Donc, c'est pas vous avez des certificats comme ça, forêt durable, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que c'est des arbres qu'on a plantés exprès pour en faire du papier, etc. C'est pas forcément très simple.
C'est une question de coût après, j'imagine.
Oui. Après, on est prêt à assumer certains surcoûts pour cette cause-là. Hein.
Vous avez parlé du bréviaire tout à l'heure. Il y a d'autres sorties que vous avez à nous annoncer un peu sur
Alors, sort en même temps un autre livre qui n'est pas écolo, mais qui est très intéressant, qui sort à l'occasion des 50 ans du 17 octobre 1961, de sinistre mémoire, puisque à Paris, en pleine guerre d'Algérie, des Algériens ont été raflés et assassinés. Sur ordre de la police de Maurice Papon, préfet de Paris à l'époque. Donc nous sortons un livre qui sort le 6 octobre également, qui s'appelle « Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque », dans lequel nous republions des textes justement parus à cette époque, les fameuses circulaires administratives absolument atroces qui ont organisé en quelque sorte cette rafle, mais aussi des textes de résistants de l'époque, notamment un très beau texte de Claude Bourdet qui s'était élevé contre ce massacre en plein Paris, et voilà, et toutes autres sortes de textes qui sont mis en lumière et contextualisés par un historien, Gilles Manseron. Et ce livre est coordonné par l'association Sortir du colonialisme.
D'accord.
Voilà.
Et ce genre de livre, par curiosité, ça va se vendre à combien d'exemplaires
Écoutez, je ne sais pas.
Oui.
Parce
que c'est quand même pointu, c'est historique.
On a fait le pari de le tirer à 5000 exemplaires.
D'accord.
En espérant que effectivement, la mauvaise conscience de la guerre d'Algérie, elle existe quand même encore en France. Et il y a ce cinquantenaire, triste anniversaire.
Et maintenant, on en parle beaucoup. Octobre, je ne sais pas, voilà. J'en ai entendu parler souvent. C'est peut-être parce que je suis née le 17 octobre, je ne sais pas.
Oui, tous les ans on en parle effectivement. Oui.
Il y a pas mal de choses.
Ouais. Et là, c'est les 50 ans de cet événement, donc.
D'accord. D'accord. Et j'ai vu dans la liste des ouvrages que vous sortiez ou que vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle Zadig et Voltaire.
Oui, Zadig et Voltaire.
Donc une petite référence, Monsieur
Lefebvre.
Nous
nous sommes beaucoup
amusés. J'imagine.
Nous avons fait l'auteur qui signe donc François-Marie Enrouet à pasticher Voltaire en s'appuyant sur notre vie politique actuelle.
Oui.
Effectivement, nous avons rebondi sur la fameuse bourde de Monsieur Lefebvre, à qui un journaliste avait demandé quel était son livre de chevet, et qui s'est trompé, qui a répondu Zadig et Voltaire. Donc nous avons décidé que puisque c'était son livre préféré, nous allions l'écrire, et nous avons mis un bandeau indiquant une leçon de vie, puisque telle était la remarque de Frédéric Lefebvre. Et donc voilà, l'auteur a fait un superbe travail de transposition, et donc nous sommes dans la Sarkozy actuelle, et il se passe tout un tas d'événements politico-philosophiques, exactement comme dans le Zadig original.
Et si je me souviens bien, la conclusion de Zadig, c'était « Cultivons notre jardin ».
Alors ça, c'était dans Candide.
Candide. Voilà,
c'était Candide.
Il faut cultiver son jardin, exactement.
Voilà. De Voltaire.
Oui, quand même.
Mais donc c'est un ouvrage qui avait été conçu avant la remarque de...
Alors non, dès qu'il y a eu la remarque de
Parce
Frédéric...
Parce qu'elle est récente, cette remarque,
oui,
du mois d'avril dernier.
Elle est très récente, mais le livre a été fait très rapidement.
D'accord.
Dès que Frédéric Lefebvre avait cette bourde, ça a beaucoup fait rire Olivier Schulzinger, qui est cofondateur des Petits Matins,
oui,
qui travaille donc avec moi, et qui m'a dit, écoute, écrivons-le. Et donc... voilà, nous avons sollicité un auteur qui a bien voulu endosser le rôle de François-Marie Enrouet et qui, en effet, dans des délais très courts, a écrit ce livre qui était fait pour faire rire, pour faire réfléchir. Et nous l'avons présenté un peu comme un petit livre d'époque, etc. Et voilà, c'est une plongée dans la vie politique française actuelle à la manière des contes philosophiques du XVIIIe siècle. Je suis contente que vous l'ayez remarqué.
Et combien vous sortez de titres par an, à peu près?
Une vingtaine. C'est du boulot.
C'est du boulot. Et c'est une maison d'édition qui... Il y a combien de personnes pour faire une maison d'édition ?
Alors, nous sommes 5 personnes, mais pas toutes à plein temps.
Bien sûr, d'accord.
Voilà. Du coup, il y a le comité de lecteurs. Comment ça marche, une petite maison d'édition ?
Oui. Alors, nous recevons effectivement beaucoup de manuscrits que nous faisons lire. Et puis voilà. Puis tout le monde met à la main, à la patte pour tout, en fait. Voilà. Donc, nous sommes tous polymorphes, si ce n'est polyvalents.
Alice, lors du prochain festival, vos invités, disons, VIP de cette édition, c'est Stéphane Hessel, donc l'auteur d'Engagez-vous.
Voilà, on l'a invité pour un dialogue, en fait, avec Gilles van der Potten, qui a coécrit le dernier ouvrage avec lui.
D'accord.
Et on a voulu faire inviter les deux pour avoir un dialogue, justement, entre d'abord deux générations, et puis également Gilles van der Potten, qui est très engagé au niveau écologique. Et donc, on voudrait un peu plus creuser cette question-là, parce que dans l'ouvrage d'Essel, c'est seulement une petite partie de son livre. Et donc, nous, on voudrait vraiment axer cette discussion avec eux sur l'engagement
écologique.
Voilà, de l'environnement et de la nature.
D'accord.
Et on a également Aïda Relali, voilà, qui sera présent, lui, le dimanche, pour un débat qu'on a co-organisé avec Altermonde. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il est écologiste sénégalais militant depuis fort longtemps. Et il est à l'origine d'une grande campagne de reboisement. Et il vient de faire l'objet d'une biographie qui vient juste de sortir. Donc on l'a invité sur le festival. Donc il vient nous parler de son engagement et de l'aspect plus international de la question des forêts et de la préservation.
D'accord, parce que c'est une sensibilité aussi au Sénégal.
Voilà, on est un peu ethno-centré, on va dire, on parle souvent des forêts françaises et européennes. C'est vrai que c'est une question qui se pose beaucoup en Afrique, avec notamment le bassin du Congo. Et voilà, on avait envie de montrer que la question des forêts se posait au niveau international, et on a trouvé ça très intéressant, et on est très content de pouvoir l'inviter. Pour parler de cette question-là, au regard de ce qui se passe en Afrique, qui est un petit peu oublié généralement quand on parle des questions.
D'accord. Il est président de l'Océanium
de Dakar.
Voilà. D'accord. Vous aurez peut-être la visite de Jean-Christophe Ruffin, puisque...
Qui sait ?
Il est ambassadeur, il est toujours ambassadeur au Sénégal, je crois.
Peut-être.
D'accord. Voilà. De se connaître.
Ah bah, oui, a priori, c'est quand même une grosse organisation au Sénégal. C'est vraiment un mouvement très important. Donc,
d'accord.
A priori, ils ont eu l'occasion de se
d'accord.
croiser.
D'accord. On va rappeler, on va conclure peut-être, on a encore des choses à dire, Laurence. C'est
ah,
on attend de parler
juste
encore, on attend de parler.
Une toute petite, on parlait d'anniversaire tout à l'heure. Moi, je voudrais souhaiter un excellent anniversaire à Greenpeace qui a 40 ans aujourd'hui, 15 septembre. Alors, c'est encore une fois, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, hein, parce que on se dit que effectivement, tous ces combats-là, malheureusement, ils en ont mené beaucoup. Ils ont remporté pas mal de victoires. Ils ont connu des défaites et des drames. On se souvient du Rainbow Warrior et de la responsabilité de l'État français dans ce qu'on peut qualifier de crime, j'imagine. Et en même temps, bah, on est drôlement content que Greenpeace continue son action pour certainement encore un certain nombre d'années.
D'ailleurs, on peut contribuer à la fabrication d'un Rainbow Warrior 2 ou 3, je ne sais pas, mais qui sont en train de construire. On peut être un peu propriétaire de le bateau en contribuant à la fabrication de ce bateau. On peut faire ça sur leur site ou il y a un truc comme ça. Tu as entendu parler, non? Tu confirmes, Sophie?
C'est pas des briques, mais effectivement.
La première action de Greenpeace, en fait, c'était pour au Canada... des loutres qui avaient subi les conséquences d'essais nucléaires, je crois, donc qui avaient été très abîmés. Et le mouvement est parti comme ça, en 71.
D'accord, on pourra les inviter dans une prochaine émission, alors peut-être.
Très bonne idée.
Parler de ces 40 ans de combat.
J'ai une dernière suggestion.
Bien sûr,
pour
oui.
finir l'émission, parce que je suis tombée sur un livre absolument génial. Il est quasiment 21h30, on n'a pas mangé. Ça commence à faire faim, si on peut dire. Il y avait un ouvrage qui était génial, que j'ai vu en librairie, qui s'appelait « En cuisine » avec Alain Passard, qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Christophe Blain. Alors, vous avez un gars mais qui est amoureux de ses légumes, qui les cuisine, il y a les recettes dessus, ça met l'eau à la bouche.
D'accord.
Voilà. Miam.
Bon appétit.
D'accord. Alors, on va rappeler la date du festival, du festival du livre et de la presse et d'écologie.
Ce sera les 15 et 16 octobre.
Ça sera les 15 et 16 octobre.
L'entrée est libre et gratuite.
Et très l'entrée important. Est libre gratuite, d'accord, c'est à la Bellevilloise. La Bellevilloise, c'est le nom de la rue, j'ai oublié. Rue Boyer dans le 20e arrondissement. Voilà, c'est de quelle heure à quelle heure?
Alors, on ouvre le samedi à 13h et le dimanche, on ouvrira à 11h.
C'est pas marqué sur le tract?
Pas sur celui-là, pas sur celui-là. Je vous donnerai le suivant.
Est-ce que vous avez toujours besoin de bénévoles? Parce que je vois
oui,
que...
D'accord. On a toujours besoin de bénévoles, bien évidemment, parce que c'est un festival qui est quand même
qui est
une
gratuit,
grosse organisation. Qui est gratuit, mais on a besoin de mains et de bras d'accord. et de gens pour nous aider.
Il y a un site internet qui est festival-livre-presse-écologie.org. Donc je pense que vous, si vous tapez festival de la presse écologie, vous trouvez
très
vite.
Une belle affiche. Il y avait un concours pour l'affiche.
Oui, on a eu une belle affiche faite par André Rollet. On organise tous les ans un concours d'affiches qu'on lance en février-mars. Donc pour l'année prochaine, vous pouvez déjà aiguiser au crayon. Ce sera encore renouvelé. Voilà, pour promouvoir aussi des jeunes graphistes ou des graphistes indépendants. Ça marche bien, c'est la troisième année qu'on l'a fait. On continuera parce qu'on reçoit des propositions intéressantes. Et puis pour les graphistes, voilà, c'est quand même un joli prix qui est doté financièrement également.
On va rappeler donc qu'on a reçu Marie-Élite Alouf des éditions Petit Matin, avec notamment la sortie du bréviaire. Comment ça s'appelle le bréviaire?
Petit bréviaire écolo.
Petit bréviaire écolo.
Vous qui avez sort... un site internet aussi.
Oui, ouais. lepetitmatin.fr.
Lepetitmatin.fr. Je vous renvoie également, on va écouter un titre version CD de Garance, qui sera le premier titre de son album, qui en a 8. Qui s'appelle La pluie tombe. Donc je vous renvoie aussi au site garancemusique.com myspace.com/garancemusique. Voilà, je peux dire que l'émission est rediffusée demain à 11h et qu'elle est également écoutable sur le site zoom-ecologie.net. Je remercie mes deux collaboratrices, Laurence et Sophie.
Mais merci Alexandre, notre collaborateur préféré.
Et je remercie Johan qui nous a beaucoup aidé à la technique. Est-ce que j'ai oublié de dire un truc?
Non, j'ai oublié de parler de ta femme Alexandre. Donc je voulais lui faire un petit coucou.
C'est vrai que je suis le Columbo de la radio, donc je parle de ma femme à chaque fois. Et on avait promis que j'en parlerais pas, Sophie. Voilà, donc on écoute pour terminer cette émission. Merci à tous, merci à nos invités. On se donne rendez-vous le troisième jeudi du mois d'octobre, donc je ne sais pas quel jour ça tombe, mais cette émission c'est tous les jeudis, de toute façon avec différentes équipes. On écoute donc La pluie tombe de Garance.
Dans une petite maison de campagne, une tendre chanson tisse sa toile. Je regarde la route au-delà du petit bois, là-bas où sans doute un jour tout disparaîtra. Le chemin au pater où personne ne s'aventure, le facteur et la boulangère ne dépasseront pas la clôture. Et même si la pluie tombe, est-ce que tu crois qu'on pourra se refaire le monde? Est-ce que ça changera quelque chose quand elle aura perlé sur les roses? Si les violons s'emballent sur la place du village, sur ma peau sous le châle, est-ce que ça couvrira l'orage? Pourtant hier je la franchis, j'ai poussé la barrière, je suis sortie. En passant le virage, le cœur qui se serre, les oiseaux et la plage, le fourgon de la boulangère. J'avais ma nouvelle robe, mes cheveux et mes pieds nus. Ça sentait bon dehors, alors je me suis un peu perdue. Et même si la pluie tombe, est-ce que tu crois qu'on pourra se refaire le monde? Est-ce que ça changera quelque chose quand elle aura perlé sur les roses? Si les violons s'emballent sur la place du village, sur ma peau sous le châle, est-ce que ça couvrira l'orage? J'ai jamais trop su ce qu'il faudrait qu'il me tombe dessus pour être plus gaie. À
Alors j'en ai profité pour aller chercher le courrier. Dans un croissant j'ai croqué et puis je suis rentrée. J'ai tapé dans l'arrosoir, sur le sol il s'est renversé. Je me suis assise sur la balançoire et là j'ai chanté. Ça y est, regarde, la pluie tombe. Je la sens qui me berce chaque seconde. Je l'entends qui me murmure quelque chose. Dans mon cœur peuvent éclore les roses. Sur la place du village, quand on ira danser au bal, j'enverrai valser mon chalet. Se dissipera l'orage.